Paradigme numéro 1, mouvement et récursion. Il avait encore les clés de la 304 en main. Avec un peu d'imagination, on pouvait deviner la couleur verte qui caractérisait autrefois ce véhicule antique. L'homme venait de verrouiller la serrure et faisait déjà un premier pas en direction du petit immeuble. Le cri retentit alors, impératif, absolu et éternel. « Haïm ! Si t'es rentré, viens donc jeter les ordures !» L'ordre tombait de la fenêtre du salon des Djibotero. Cela sentait ses 18 ans d'amertume et de déception. 18 années. Il les vit passer dans sa tête comme un obus de mortier qui ne trouve pas sa place définitive dans le paysage. Il portait en lui un tourbillon de pensées furieuses, tranché net par des lignes droites à déprimer un phoque. Tout s'enchevêtrait, pêle-mêle, une colère à peine contenue et un calme apparent. Tout l'univers pénétrait par une oreille et sortait par l'autre. Il tenta en vain de se souvenir combien de fois on avait « jeté les ordures » pendant toutes ces années. C'était difficile, car ce n'était pas toujours lui qui jetait. Et puis il n'avait pas une très bonne mémoire des faits. Il hésita un moment et leva les yeux vers la fenêtre. Celle-ci s'était refermée. Il sentit dans sa main le froid de la clé de la voiture. Des ballons de gaz de la maison plein gaz défilèrent à toute allure dans son esprit tourmenté. Comme toujours, il se fit une raison et marcha délibérément vers cet avenir prévu d'avance. Fatalement, il se retrouverait toujours face à face avec la poubelle de l'immeuble. Il monta, entra et lâcha un « bonjour » taciturne. Sa voix rappelait celle d'un présentateur d'information qui annonce qu'une navette spatiale est entrée en collision avec un autocar et qu'il n'y a pas de rescapé. Il prit le sachet d'ordures des mains du monstre et redescendit l'escalier. Il savait que la seule à l'attendre vraiment, c'était la grenouille, comme on appelle ces grosses poubelles de métal rébarbatif. « Le verre, se dit-il, c'est bon pour les grenouilles. »«
Le verre, c'est bon aussi pour les dollars et les olives. »
Ça y est, tu commences.
T'es naughty ? Qu'est-ce que tu fais dans mon histoire ?
Gros malin, c'est toi qui m'y as mis.
Ta présence volumineuse risque de troubler le lecteur. Sors de cette nouvelle.
C'est toi qui as commencé.
Bon, mais tiens-toi tranquille, veux-tu ?
C'est parti, mon crapaud.
Haïm souleva le couvercle de la grenouille. Un chat mi-roux, mi-blanc, mi-noir piqua une tête. Djibotero contempla ce prodige, mais n'arriva pas à concentrer sa pensée. Une question se présentait à son esprit, ou plutôt à sa gorge, et de là, au bout de sa langue. La question n'avait pas de réponse précise. Celle-ci appartenait à un monde qui se situait en dehors de lui. En bref, l'alternative s'exprimait ainsi. Est-ce que le chat sautait du dedans vers l'extérieur, la tête en avant et la queue suivant exactement le même mouvement? Ou bien était-il passé de l'extérieur vers l'intérieur, marchant à rebrousse-poil et à brûle-pourpoint ? C'est une question de direction et non pas de mouvement, pensa-t-il. Et, après tout, qu'est-ce que ça peut lui faire, au chat, s'il marche en avant vers l'extérieur ou en arrière vers l'intérieur ? D'ailleurs, si ça lui faisait quelque chose, si cette chose était ou n'était pas, cela n'avait aucune espèce d'importance. Et si, pour le chat, cela n'avait aucune importance, alors pensez donc, comme Djibotero lui-même ne s'en préoccupait pas plus que d'une souris. Un bruit sec. Le couvercle retomba brusquement sur le cadre de métal de la grenouille. La grenouille ne sembla pas s'en émouvoir, le couvercle non plus. Mais le chat se prit une seconde pour celui de Schrödinger, se demandant s'il était un quart mort ou trois quarts vivant. Haïm revit la balle devant ses yeux, à 1 centimètre de son nez. Et son copain Rami, qui tombait à côté de lui. Il lui avait semblé voir la balle entrer par la tempe gauche et sortir par la droite. Mais personne ne l'aurait cru. Comment aurait-il pu voir la balle ressortir de là où il se tenait ? Absurde, ridicule même. Quoi qu'il en soit, il avait mal pour l'ami, l'ami qui n'était plus. Et puis pour la veuve aussi. Un ami ? Après tout, ils n'avaient fait que 2 périodes militaires ensemble, pas plus. C'était bien peu, mais c'était quand même quelque chose. Surtout quand le camarade tombe à côté de vous, sans crier gare, sans rugir, sans un mot, sans une plainte. C'est comme cette grenouille pleine de déchets. On lui cloue le bec et elle la ferme, sans rien dire, gardant sa douleur pour elle. Le chat patrouilla deux ou trois fois autour de la poubelle. Finalement, il se décida et sauta à l'intérieur en se glissant sous un des couvercles, mal fermé sans doute. On pouvait apercevoir encore sa queue pendant une demi-seconde, une éternité. Et puis il fut englouti, enfoui, mené à sa dernière demeure au fond du métal glacial. Schrödinger avait raison. Haïm songea. Je pensais lui raconter au monstre, ou plutôt ne pas lui raconter, ne rien dire. Il vaut mieux ne rien dire. D'ailleurs, elle n'écoute pas. Et si elle l'écoute, elle n'entend pas. C'est-à-dire qu'elle entend ce qu'elle veut entendre. Elle entend par cooptation interne, et donc elle choisit d'entendre. Mais cela n'assure pas qu'elle écoute. Il se peut qu'elle ait une oreille sélective, mais en tout cas, elle a l'écoute à filtre hyperactif. Ses pensées l'accompagnaient dans sa marche. Mais quand va donc finir cette saleté de guerre? Cela fait 18 ans que ça dure. Non, cela ne fait que 4 mois maintenant. Mais l'autre guerre, cela fait 18 ans à présent. Ça fait une sacrée différence. Et dans cette guerre-là, il n'y a que des perdants. Ou plutôt, il y a un perdant, Haïm Djibotero, et une gagnante, Ayelet le monstre. Déjà vaincu, il s'assit lourdement sur un tabouret de cuisine. Comment c'était l'armée ? Eh bien, comme on entrait au Liban, on n'était pas là depuis 2 minutes et alors... Eden ! Allume le chauffe-eau ! Papa est là ! Et puis descends voir s'il y a du courrier ! Cela n'a pas pris 20 secondes, pensa-t-il. Il ne parvenait jamais à terminer une phrase entamée. Il essayait quand même, de temps en temps, des phrases ultra courtes, mais pleines de signification, de contenu, d'intérêt. Quelque chose comme « Il y a du soufre dans l'air, il y a du sel dans l'eau ». Mais, de mémoire de Haïm, jamais une phrase n'était arrivée au bout de son dernier mot. Sa voix avait toujours été couverte par la sienne à elle. Ce n'était pas qu'il voulait avoir le dernier mot. Non, il voulait juste le placer, une fois de temps en temps, à la fin de sa propre phrase, pas de la sienne à elle. Mais pas moyen. Son regard partit dans l'infini. Il ferma un moment les yeux, de façon à ne pas voir ce que l'on ne voit pas. Comme avait dit le poète en 1997, « Les choses qu'on voit de là-bas, on ne les voit pas d'ici. » Et même si cela devait prendre encore 15 ans avant que le poète n'y pensât, cela prouvait uniquement qu'il y avait de la prophétie sur terre. Rien d'autre. Il pensa à ses potes en route pour le casse-pipe, qui chantaient « Monsieur Béguin, emporte-nous sans écueil, au Liban qu'une balle nous cueille, et que tout le monde se recueille quand on reviendra dans un cercueil. » Avec leurs chansons de gauchistes, ils démoralisaient le peuple. Ah, s'ils pouvaient les fusiller, les pendre, les empoisonner, les gazer! Ils les attacheraient au tuyau d'approvisionnement de plein gaz, allumerait une allumette, ouvrirait le gros robinet et les ferait sauter en l'air en plein milieu de leur manifestation pacifiste. C'est pourri. Ceux qui survivraient encore, ils leur ficheraient une allumette dans les narines et boum, jusqu'à Honolulu. Mais quand va-t-elle finir cette sale guerre? Si la gauche était au pouvoir, on n'en serait pas là. On aurait la paix, que diable! Les trois enfants se présentèrent devant lui à la queue leu-leu. Eden regarda son père d'un air morne. Elle se fit une tête en forme de poinçon. « Tu as de nouvelles boucles d'oreilles ? » demanda-t-il. « Hum, répondit-elle. « C'est un cadeau de Pouchki. »«
C'est qui, Pouchki ?»«
Pouchki, c'est mon camarade, quoi. Ses parents l'appellent Yehoshua, parce qu'il est né le jour d'hier du jour qu'il y en a qui, avec son grand-père, il est mort. Mais tout le monde l'appelle Pouchki. »«
Pourquoi pas Chouki, comme tout le monde ?»
Chouki ? Oh non, c'est plus à la mode.
Et qu'est-ce qu'il fait, ce Pouchki ?
Il prépare son bac dans une école par correspondance.
Ah, dans une école pour pauvres types ?
Oui, dans une école pour Pouchkip, lui fit Eden, toute fière de son jeu de mots idiot. Et d'où il les avait, ces boucles d'oreilles, ton Pouchki ?
Il les a barbotées sur un stand au marché. Il est fou de moi. Il serait prêt à me télécharger un ballon de gaz de sur la lune.
« Plaisanterie familiale, pensa Djibotero.
« Ça fait une semaine que ton patron te cherche !» prononça le monstre. « Qu'est-ce qu'il me veut ?» Haïm s'étonna de ce que le bout de la phrase fût déjà derrière lui. « Que t'ailles chez les Gourevitch leur réparer !»« Tu lui as dit que je suis à la guerre ?»« Un, je lui ai dit. Deux, il s'en fiche. Trois, je lui ai pas dit, parce que je pensais qu'il s'en ficherait. »« Qu'est-ce qu'il y a chez les Gourevitch ?»« J'en sais rien. Il a dit comme ça que t'y ailles quand tu viendrais. » Et puis que ça urge, comme ça qu'il a dit. Qu'est-ce qui urge tellement? Ils ont dit que si tu ne venais pas, ils passeraient à une autre compagnie. Et alors? Alors, c'est le quatrième client à lui qui dit la même chose. Et lui, il n'est pas d'accord. Haïm appela son patron. Mais dès qu'il ouvrit la bouche, commença un fastidieux conte de mille et une nuits. Il en ressortait que ça sentait le gaz chez les Gourevitch. On avait envoyé quelqu'un d'autre, qui avait déclaré que ça lui rappelait une odeur de charogne de chat. Mais c'était tout. Les Gourevitch avaient déclaré qu'effectivement, leur chat avait disparu, mais que l'odeur qu'ils sentaient, c'est une odeur de gaz qui fuit. Ils avaient un oncle qui avait été gazé à Auschwitz, et ils avaient peur. Et à part ça, ils n'avaient confiance qu'en Haïm, et Haïm connaissait leur gaz comme sa poche. Le patron ordonna qu'ils soient chez eux le lendemain à 8h, mais qu'il appelle à 7h30 pour les prévenir et qu'ils s'habillent. Haïm ouvrit tout grand la bouche. Il s'apprêtait à hurler qu'il en avait marre de plein gaz, et que lui aussi, il passait à une autre compagnie. Il arriva à peu près à achever la première partie de cet algorithme confus. Les mâchoires se séparèrent sans trop de difficultés, mais il n'en sortit rien. Le boss avait claqué le récepteur sur la partie fixe du téléphone. Ce geste si naturel eut pour effet direct de couper court à la conversation. Haïm dormit mal la nuit. Il rêvait que les Irakiens tiraient des roquettes sur Tel Aviv. Les Américains répliquaient avec des haches de guerre d'Indiens. Les Irakiens se vengeaient en lâchant des bombes au gaz sur les Iraniens. Ceux-ci lançaient une bombe atomique sur Jéricho. Israël contre-attaquait avec des fusées terre-terre Jéricho. Et lui, Haïm, armé d'un mégaphone géant, annonçait que si cette maudite guerre ne s'arrêtait pas immédiatement, il ferait sauter un ballon de gaz en haute atmosphère. La presse mondiale était en délire. Élevé au rang de héros national, il devenait le maître du monde. À cheval sur une fusée Jéricho, il tenait un ballon de gaz de 48 kilos dans sa main droite. Dans la gauche, il brandissait un mince tuyau de cuivre, dont il se servait comme d'une corne de bélier pour sonner l'arrivée définitive et irrévocable du Messie. Peu après minuit, il s'éveilla. Le songe était encore là. Haïm rêvait. Il espérait. Quoi ? Il n'en savait rien. Soudain, son cerveau effervescent opéra un effroyable retour à la normale. Ses copains tombaient comme des mouches à 180 km de là, et ici, les gens ne pensaient qu'à des ballons de gaz et à des robinets de sûreté. Ça le dégoûtait. Il aurait bien voulu rêver à autre chose. Mais à quoi, bonté divine ? Il voulut prendre une douche. Fermée. Homer était à l'intérieur. Ah, s'il pouvait seulement flanquer ses pieds gonflés dans une bassine d'eau. Quel bonheur ce serait! Sur son balcon puant, le voisin fumait la dernière cigarette de la journée. Il était peut-être 2h du matin maintenant, dur à dire. La puanteur montait, implacable, et étranglait Haïm. Il avait envie de bombarder le voisin et de pendre le monstre sur la corde à linge par les pieds, avec deux valves dans les narines.